Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la liturgie nous fait célébrer aujourd'hui le plus grand des sacrements, le sacrement de l'Eucharistie. Et l'enseignement de l'Église à ce sujet peut se résumer en trois points, montrant en quoi le sacrement de l'Eucharistie se distingue des autres sacrements. Premièrement, alors que tous les sacrements nous donnent la grâce sanctifiante, qui est cette participation à la nature divine qui élève notre âme, notre nature, au-dessus de la nature humaine, pour nous permettre d'avoir une vie intime avec le bon Dieu, eh bien non seulement le sacrement de l'Eucharistie nous donne cette grâce sanctifiante, bien sûr, mais il nous apporte l'auteur de la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ. Le second point par rapport aux autres sacrements, c'est que non seulement la Sainte Eucharistie nous applique, comme les autres sacrements, les fruits du calvaire, les mérites de toutes les souffrances de notre Seigneur pendant sa passion. Mais la Sainte Eucharistie contient le sacrifice du calvaire. La consécration séparée du pain et du vin à la messe, qui deviennent le corps et le sang de notre Seigneur, eh bien cette consécration séparée représente la séparation du corps et du sang de notre Seigneur sur la croix, et ainsi, par l'ordination de Dieu, renouvelle sacramentellement, de manière non sanglante, le sacrifice du calvaire, pour nous en appliquer les fruits aujourd'hui, selon les besoins qui sont les nôtres. À l'autel, nous avons le même prêtre et la même victime qu'au calvaire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, le troisième point, c'est que le sacrement de l'Eucharistie est un sacrement permanent. Le sacrement de baptême, par exemple, a lieu lorsque le prêtre verse l'eau sur le front de l'enfant en prononçant les paroles « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le sacrement de confirmation a lieu lorsque l'évêque pose sa main sur la tête du confirmant, et avec son pouce, eh bien, le signe sur le front du signe de la croix, avec lui le saint, en disant « Je te confirme du sceau du Saint-Esprit ». Tandis que pour le sacrement de l'Eucharistie, il est là tant que demeurent les saintes espèces, tant que l'hostie est là, le sacrement est là. Ce qui fait que c'est un sacrement que le prêtre peut mettre dans le tabernacle ou dans l'ostensoir, comme cet après-midi, pour l'adorer, pour le vénérer, pour l'honorer publiquement. Et là, dans l'hostie, eh bien, caché sous les espèces sacramentelles, on donne ce nom au pain et au vin, mais ce ne sont que les accidents du pain et du vin. Parce que caché sous les espèces, qu'est-ce qui est là? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ avec les mêmes dispositions d'âme qu'il avait au calvaire. Sans la Sainte Eucharistie, nous serions orphelins sur cette terre. Notre Seigneur serait remonté au ciel après l'ascension, puis nous serions tout seuls ici-bas. Mais avec l'Eucharistie, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Il est là dans nos églises, dans le tabernacle. Et encore mieux, il vient en nous par la Sainte Communion, parce qu'il veut être au plus intime de nous-mêmes pour nous aider à marcher vers le ciel et à porter toutes les croix de la vie. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors revenons maintenant à chacun de ces trois points rapidement pour en tirer des applications pratiques pour la vie de notre âme. Premièrement, nous avons dit l'Eucharistie non seulement nous apporte la grâce, mais elle rend présent l'auteur de la grâce et elle nous le donne, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son encyclique Pascendi contre le modernisme, le pape Saint-Pédis condamne cette erreur des modernistes, disant en fait qu'il y a deux Christ. Il y a le Christ de l'histoire, celui qui a vécu il y a 2000 ans, et c'est quelque chose que personne ne peut nier. Et puis il y a le Christ de la foi, c'est-à-dire le Christ tel qu'au cours des siècles, finalement, il a été transfiguré, idéalisé par la foi des croyants. Évidemment, c'est très grave de dire cela, parce que cela conduit à nier la divinité de notre Seigneur. Parce que celui que la foi nous montre comme le Fils de Dieu s'étant incarné afin de mourir sur la croix pour réparer nos péchés, c'est le même, bien sûr, que celui qui était le Christ historique d'il y a 2000 ans. C'est le même Christ. Et c'est le même qui, aujourd'hui, par le mystère de la transsubstantiation, se trouve sur l'autel. Dès que le prêtre a prononcé les paroles de la consécration, eh bien, le Christ de Marie-Madeleine, le Christ de la Samaritaine, le Christ du Tabor, de Gethsémani et du Calvaire, le Christ qui est ressuscité des morts au matin de Pâques, qui est monté aux cieux à l'ascension et qui maintenant est à la droite du Père, eh bien, il est là, sur nos autels. C'est lui, c'est exactement le même. Non alius, sed aliter, dit la théologie. Ce n'est pas un autre, mais il est là de manière différente, c'est-à-dire caché sous les espèces du pain et du vin. Et toute la liturgie de ce jour, composée par saint Thomas d'Aquin, chante ce mystère. Nous l'avons chanté il y a quelques instants dans le Laudation, cette belle séquence qu'il faudrait méditer ensuite chez soi à la maison. Sub diversis speciebus, signis tantum et non rebus, latent res eximie. Sous des espèces diverses, c'est-à-dire le pain et le vin, mais qui ne sont que des signes extérieurs, et qui ne sont pas la chose, la réalité, eh bien se cachent des choses sublimes. Oui, c'est là, parce que la réalité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et saint Thomas s'exclame encore, « Ave verum corpus natum de Maria Virgine ». Salut, vrai corps, né de la Vierge Marie, et qui se trouve là devant nous. Cela devrait bouleverser toute notre vie. Nous n'avons rien à envier aux apôtres et aux disciples. Nous possédons notre Seigneur Jésus-Christ autant qu'il est là. Mais il faut aller plus loin. La consécration du pain et du vin rend le Christ présent sur nos autels. Mais dans quel état est-il ? Eh bien, dans l'état de prêtre et de victime. Ce sacrement a en effet la particularité d'être un sacrifice. Communier, disait Monseigneur Lefebvre, c'est être crucifié avec Jésus-Christ. Le sens profond de la communion eucharistique, c'est l'union au Christ du Calvaire, dans l'acte même de son offrande au Père pour notre salut, pour le rachat de nos péchés. Le baptême, les autres sacrements, nous avons dit, nous font participer au bienfait de la passion. L'Eucharistie, dit saint Thomas, consomme notre union avec le crucifié. Et c'est là tout le drame de la nouvelle messe de Paul VI. Son instigateur, Monseigneur Bunigny, avait pour but, il l'a écrit lui-même, de changer la liturgie pour que, lorsque des protestants assisteraient à notre messe, il n'y ait pour eux, en assistant à notre messe, qu'il n'y ait pour eux pas l'ombre d'un risque de désaccord ou même de déplaisir en assistant à notre liturgie. Mais les protestants refusent que la messe soit un sacrifice pour le rachat des péchés. Donc ceci a été estompé, bien sûr, dans la liturgie, pour que la messe catholique devienne acceptable à des personnes eh bien, qui refusent la messe telle qu'elle a instituée notre Seigneur Jésus-Christ, finalement. Et le cardinal Ottaviani, c'est très grave, a pu écrire à cette occasion que la nouvelle messe s'éloigne dans l'ensemble, comme dans le détail de la théologie catholique de la Sainte Messe telle qu'elle a été définie par le Concile de Trente. Alors bien sûr, pour qu'une messe soit valide, il suffit qu'il y ait un prêtre validement ordonné. Là, malheureusement, il y a quand même certains doutes aujourd'hui. qui ensuite, eh bien, prononce les paroles de la consécration sur le pain et le vin avec l'intention de faire ce que fait l'Église. Bon, la messe est valide. Mais, en soi, mais quand toute la liturgie qui entoure cette messe est désacralisée, quand toute cette liturgie ne manifeste plus clairement que la messe est un sacrifice pour le rachat des péchés, non seulement cela offense gravement notre Seigneur, il ne s'agit pas bien sûr ici de juger les prêtres et les fidèles qui y sont, c'est évident, mais ce rite en lui-même offense notre Seigneur, parce que ce n'est plus la messe telle qu'il l'a instituée, puisqu'il fallait qu'il n'y ait pas l'ombre d'un risque de déplaisir pour ceux qui ne reconnaissent pas ce pourquoi notre Seigneur a institué la messe. Et puis d'autre part, les prêtres eux-mêmes, en célébrant cette messe, avec le temps, ça s'est passé au fil des années, eh bien ont perdu la piété, et beaucoup ont perdu la foi. Et alors, ils peuvent consacrer avec une intention opposée à celle de notre Seigneur. Et à ce moment-là, la messe ne sera pas valide. Et les fidèles eux-mêmes, eh bien, finissent par perdre l'esprit chrétien, si ce n'est la foi. Car comment la vie chrétienne peut-elle subsister quand la liturgie de la messe n'est pas essentiellement centrée sur le calvaire? La nouvelle messe a détruit l'Église. Si quelqu'un veut me suivre, dit notre Seigneur, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La vie chrétienne consiste à rentrer dans le mystère de la croix pour un jour participer à la gloire avec notre Seigneur. Et c'est l'assistance à la messe qui donne le courage de marcher jusqu'à la fin de notre vie sur ce chemin de croix qui nous conduit à la gloire. Et surtout, c'est la communion qui nous donne cette force. Si notre Seigneur a institué ce sacrement, s'il désire venir au plus intime de notre âme, c'est pour nous entraîner dans son sacrifice. C'est pour que toute notre vie devienne un sacrifice d'adoration, d'action de grâce, de supplication et de réparation avec notre Seigneur. C'est dans cet esprit qu'il faut communier, non seulement en étant en état de grâce, mais avec le désir de ne faire qu'un avec notre Seigneur, s'offrant à son Père et offrant toute notre vie à la suite de notre Seigneur. Et c'est vraiment cette grâce qu'il nous faut demander en cette fête de Saint-Sacrement, de communier dans ses dispositions. Reste à voir quelles conséquences doit avoir maintenant le fait que l'Eucharistie est un sacrement permanent. Nous avons dit que le sacrement était là tant que duraient les saintes espèces. On estime qu'après avoir reçu la Sainte Hostie, celle-ci demeure en nous à peu près un quart d'heure, avant de se dissoudre complètement. Donc cela veut dire, le sacrement est toujours là. Donc pendant ce temps, le sacrement agit en nous, pendant environ un quart d'heure. C'est pas à la seconde, bien sûr. Alors il faut avoir cela à l'esprit pour faire une véritable action de grâce environ un quart d'heure, après avoir reçu la Sainte Hostie. Et comment cela? Eh bien, en nous unissant intérieurement à notre Seigneur, nous transformant en lui. Pendant ce temps-là, nous unissant intérieurement à notre Seigneur, nous transformant en lui. Sinon, nous perdrons à peu près tout l'effet de ce sacrement. Il agira, mais nous penserons à autre chose. Et alors, nos communions nous apporteront très peu. Attention quand même, tout est-il fini en nous quand les saintes espèces sont dissoutes? Une fois que les saintes espèces sont dissoutes, notre Seigneur n'est plus présent sacramentellement. Mais, comme la communion a augmenté la charité dans notre âme, les effets de la communion se prolongeront alors toute la journée et toute la semaine, dans la mesure où nous prendrons occasion de cette augmentation de charité pour en multiplier les actes dans notre vie avec l'aide de notre Seigneur. On peut dire, je vais communier pour faire le plein de charité. Et une fois que nous sortons de la communion, eh bien nous avons en nous, par cette charité qui a augmenté, nous avons en nous davantage de capacité de faire la volonté de notre Seigneur et d'exercer la charité envers le prochain, qu'avant la communion, nous en avons davantage de capacités. Donc, il faut que nous nous mettions au travail après. Saint Thomas d'Aquin dit que le sacrement de l'Eucharistie étant le sacrement de la charité, c'est celui qui nous conduit à davantage de générosité. Nous avons une capacité augmentée d'exercer davantage de charité envers notre Seigneur et envers le prochain. Donc, nos communions nous sont données, si vous voulez, pour nous mettre au travail. Ne l'oublions pas. Chaque communion nous est donnée pour être plus généreux pour Dieu et pour le prochain. Et puis, il y a une autre conséquence du fait que l'Eucharistie est un sacrement permanent. Eh bien, c'est qu'elle va nous permettre l'adoration. Le cardinal Pacelli, futur Pie XII, eut l'intuition des temps de désolation qui atteindraient un jour l'Église. Citons-le. C'est prophétique, c'est extraordinaire. J'entends autour de moi des novateurs qui veulent démanteler la chapelle sacrée, détruire la flamme universelle de l'Église, rejeter ses ornements, lui donner le remords de son passé historique. Un jour viendra où le monde civilisé reniera son Dieu, où l'Église doutera comme Pierre a douté. Elle sera tentée de croire que l'homme est devenu Dieu, que son Fils n'est qu'un symbole, une philosophie comme tant d'autres. Et dans les églises, les chrétiens chercheront en vain la lampe rouge où Dieu les attend. Et comme la pécheresse devant le tombeau vide, ils crieront « Où l'ont-ils mis ?» Nous y sommes. Et si la lampe rouge brûle encore souvent dans les églises, on peut à chaque fois se demander légitimement si notre Seigneur y est. Alors en ce mois de juin résonnent à nos oreilles les paroles du Sacré-Cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Notre Seigneur parle de l'Eucharistie. Et en relisant ces paroles de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie, on peut dire, mais que dirait-il aujourd'hui? On ne peut pas ne pas penser, en entendant ces paroles, à ces foules aujourd'hui, maintenant, qui dans les églises communient sans plus jamais se confesser et dans la main, même aux messes du pape. Et cela culmine même aux messes du pape. Vous avez tous vu plus ou moins ces photographies des journées mondiales de la jeunesse organisées par le pape Jean-Paul II, par Benoît XVI, par le pape François, c'est toujours pareil. Dans quelle tenue tous ces jeunes reçoivent la Sainte Communion? Comment elle leur est donnée? Dans des gobelets en plastique aux dernières journées mondiales? Il y a quelques années, nous avons eu un jeune homme, un Américain, venu nous visiter au couvent. Il avait assisté aux journées mondiales de la jeunesse à Denver, aux États-Unis. Il n'était pas encore traditionaliste à l'époque. Le lendemain de la messe du pape, les femmes pieuses de la ville ramassaient dans des sacs plastiques les hosties qui étaient éparses sur le champ immense où avait eu lieu la messe du pape. Voilà le résultat de la communion dans la main. Les prêtres n'y ont même pas pensé d'aller voir. Alors pour réparer tant de sacrilèges que notre Seigneur avait vu à l'avance et pour obtenir le salut de ces âmes, bien sûr, eh bien, ce que notre Seigneur a demandé à Sainte Marguerite Marie est toujours vrai aujourd'hui, bien sûr, et les papes n'ont cessé d'y insister, spécialement Pie XI, dans son encyclique sur le Sacré-Cœur. Notre Seigneur demande à ceux qui essayent de lui rester fidèles, et aujourd'hui c'est encore plus vrai que jamais, demande une compensation d'amour. C'est le sens de la communion réparatrice des 9 premiers vendredis du mois, qu'on peut continuer tous les premiers vendredis, mais à partir de 9, eh bien, notre Seigneur nous a promis le salut. Ça veut dire que pour lui c'est très important. Parce que le but de cette communion, c'est de faire une communion en plus, avec le plus de ferveur possible pour réparer ce manque d'amour qu'ont les hommes aujourd'hui pour lui, et spécialement tous ces sacrilèges envers la Sainte Eucharistie. Et puis, c'est aussi la signification de l'heure sainte mensuelle réparatrice, l'heure sainte au foyer où l'on donne une heure, on tient compagnie à notre Seigneur une heure, encore une fois, en compensation d'amour. En conclusion, eh bien, que cette nouvelle fête du Saint-Sacrement augmente notre foi en la présence réelle de notre Seigneur, qu'elle nous obtienne la grâce d'offrir toute notre vie en union avec Jésus, s'offrant à son Père sur la croix et à la messe. Et que cette fête d'aujourd'hui nous donne le désir de tenir compagnie à Jésus, au tabernacle ou même des fois chez soi, pour passer du temps à l'aimer pour ceux qui ne l'aiment pas, et ainsi obtenir leur conversion et avancer le triomphe et le règne du Sacré-Cœur de Jésus. Demandons ces grâces au cours de cette messe, par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie, qui la première a vécu cet idéal par sa présence au pied de la croix le Vendredi Saint et lorsqu'après la Pentecôte, elle assistait à la messe célébrée par saint Jean. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.